France Inter.
Depuis le début des temps, et probablement jusqu'à la fin du monde, une famille entière d'imbéciles est décimée par les champignons venimeux.
Moi, les champignons, je connais.
Et cela malgré les remarques réitérées des autorités médicales les plus compétentes et des sommités mycologiques les moins farfelues.
CO2, mon amour.
Moi, les champignons, je connais.
C'est pourquoi, afin d'éviter une mort grotesque, nous ne devons jamais aller nous promener dans les bois sans un con à champignons.
Avec Denis Chessoux.
Voici un con à champignons.
Moi, les champignons, je connais.
Au moindre doute de votre part, le con à champignons se fera une joie de goûter à votre place le champignon suspect.
Sur France Inter.
Étonnant, non ?
Et comme c'est la saison de la cueillette, eh bien c'est notre mission de service public de vous aider, de vous avertir. Merci donc des proches. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature et les champignons qui chuchotent à votre oreille. Julien Thévenot est à la technique aujourd'hui, notre collaboratrice est Camille Blanès et Xavier Pestugia réalise l'émission. Et puisqu'un astrophysicien va s'exprimer, j'ai retrouvé cette info à plus de 11 000 km de chez nous. Grandissimo. Où se construit le plus grand télescope terrestre du monde ? Eh bien, dans l'un des plus grands déserts, celui d'Atacama au Chili. Ah bah oui, c'était une question bleue, donc vous ne gagnez strictement rien. Atacama, où l'on trouve bien sûr des ciels nocturnes les plus purs du monde, offrant l'opportunité d'avoir des idées claires. Vers où veut-on mener nos sociétés ? L'être humain, veut-on interroger réellement le progrès ? Est-ce que scier avec grand talent la branche du vivant sur laquelle on est tous assis est un truc d'avenir ? Bref, toutes ces questions inutiles glissées sous le tapis qui n'intéressent que des écolos terroristes de France Inter. Et puis quand même avant tout, ce télescope permet d'avoir des idées plus claires sur les insondables mystères de l'univers. Alors on pourrait penser évidemment qu'une telle merveille permette à la communauté scientifique de voir assez loin dans l'espace pour imaginer un avenir serein à une humanité fébrile, fourvoyée dans ses problèmes de frontières, d'ego, de puissance et de choix de civilisation. Ce serait mal connaître un capitalisme débridé arrivé au sommet de sa gloire qui jusqu'à présent n'a fait état que de visions plutôt à courte vue destinées à gonfler d'insatiables bénéfices tout en, bien sûr, quand même créant de la richesse. Donc c'est quand même le contraire d'un télescope qui voit loin. Forons, forons, exploitons, ratissons, la terre est rare, l'eau sera plus précieuse que le pétrole, nous en ferons un business merveilleux. L'air est pur à 2600 mètres, la route est large, les chars de l'innovation ouvrent et goudronnent de nouvelles perspectives d'expansion. Et c'est ici donc que se construira un des plus grands data centers du monde, aussi gourmand en électricité que la moitié de la consommation du Chili. Alors l'électricité sera pré-garantie par parfaitement décarboné, CO2 mes amours, bien compris. Ah ouais, dites donc, là, c'est pas mal sur le papier votre affaire, mais quand même, vous avez autre chose encore ? Ah bah oui, le projet de construction d'une usine à hydrogène menace quand même d'affecter les observations des télescopes, donc les plus puissants. La compagnie américaine AES Energy veut implanter une usine de production d'hydrogène et d'ammoniac vert. Alors certes, écologique, mais c'est peut-être pas exactement au bon endroit. Cette douce industrie verrait le jour à une douzaine de kilomètres du Mont Paranal, où se trouve le Very Large Telescope. La pollution lumineuse émise par ce complexe généreux va augmenter de 35% la luminosité, nous disent les scientifiques assez inquiets. Bah, il ferait beau voir qu'un si grand désert ne touche pas sa part de dividendes, que débarquent enfin les jets privés de têtes d'ampoule bardés de diplômes, dopés d'intelligence artificielle et aussi des engins de chantier sans doute parmi les plus gros du monde. Le bruit, la pollution, les lampions, la fortune risquent à peine de ternir la pureté sublime de ces nuits de confins d'univers. Alors question, que vaut le classement du plus grand télescope du monde au patrimoine commun de l'UNESCO face aux exigences marchandes des temps modernes ? Rangez vos télescopes de Tintin sur la Lune, professeur Tournesol. On vous offre en échange un plat de lentilles de contact. Hubert Reeves aimait dire « L'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. » Les autorités chiliennes et nous tous devrions y songer. Alors nous prolongerons donc la réflexion avec Aurélien Barreau, donc un scientifique, je le disais, engagé, militant pour le vivant, décrié donc tout à fait intéressant. Il n'a pas causé dans le poste depuis un bon bout de temps, il a fait une petite cure médiatique, car je l'ai appelé en Isère. Il a dit oui, donc entre deux cols, c'eût été bêta de ne pas le rencontrer.
Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see so true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, 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 yeah.
C'est pas mal du tout, ça c'était Curtis Harding sur France Inter, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Et voici maintenant un homme qui est lucide sur son époque, qui est poète et astrophysicien.
J'aime bien les montagnes parce qu'elles ont une histoire. Quand on est là, on sent que quelque chose nous a précédé, on sent que le territoire qu'on habite ou qu'on colonise n'était pas vierge. Ouais. Et ça c'est très important. Et on en a perdu le souvenir. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a désappris cette nécessité parce qu'on est ensorcelé par nos addictions techno-mortifères. On est tellement envoûté à la technologie qu'on en arrive presque à croire que les électrodes implémentées dans les cerveaux que les Elon Musk et consorts sont, oui, en train d'inventer en Californie nous feront une expérience de vie supérieure à la réalité. C'est-à-dire que la simulation nous excite plus que l'original. On a entièrement effondré le réel dans une version artificialisée et aseptisée qui est non seulement nocive et non durable, mais qui est surtout immensément chiante. Finalement, tout est là. Tous les sens sont sollicités en même temps et surtout, ça interroge notre ressenti profond de ce qu'est la beauté.
Alors, disons-le d'emblée, dans cette émission, vous ne serez pas surpris, nous préférons l'original de la vie à la simulation. Oui, mais le charbon, c'est propre, c'est magnifique. Le réchauffement climatique, c'est la plus grande des arnaques. Merci, monsieur le président du Monde, ou presque, pour cette analyse et parlez-en aux réassureurs. Alors, nous, on a pris de la hauteur. À nos pieds, vous avez sur plusieurs kilomètres un grand labo, un centre de recherche, des entreprises. C'est la métropole de Grenoble qui croit en la science et le prouve depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, son président, Christian Ferrari, est lui-même enseignant chercheur et voit la science comme une boussole. Alors, Aurélien Barreau est astrophysicien au CNRS et professeur à l'Université de Grenoble-Alpes. Il est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, lauréat de plusieurs prix scientifiques, docteur en philosophie, spécialiste des trous noirs, voilà. Alors, il ne remet pas du tout, évidemment, une seconde en question la science, c'est pas ça, non. Il interroge, en revanche, la finalité. Nous étions dans le parc naturel régional de Chartreuse, je ne vous en dirai pas plus que je ne connais pas bien leur action, mais le massif est superbe. Encaissé, ayant accouché de belles falaises, au-dessus de la couche de pollution, ce lieu respire. Alors je peux aussi vous renvoyer au CO2 Mon Amour de février avec le sculpteur sur bois Thierry Martenon qui fait dialoguer les arbres avec son art et son massif de Chartreuse. Aurélien Barreau a sorti deux petits livres, « Comment habiter le monde » aux éditions Bayard Collection, c'est la collection des petites conférences. Autrement dit, comment faire face à la sixième extinction de masse que nous vivons. Et puis aussi, le beau et le politique, bien sûr. Ouais, c'est la nature et c'est le ciel aussi. Donc, il écrit un recueil de poésie qui s'appelle Météorite dans la collection Point Seuil. Voilà, nous le retrouvons. Nous sommes à 600 mètres, 700 mètres d'altitude, tranquillement dans la Chartreuse avec Aurélien Barreau.
Moi, j'ai tout essayé.
Alerté, etc.
Et rien ne marche. Non. Et en fait, je crois que c'est un peu notre faute, parce qu'on a utilisé de mauvais arguments. Les arguments principaux consistaient à dire « ce monde n'est pas durable ». Et c'est vrai. Oui, on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on possède de façon durable. Mais c'est même pas la question. En réalité, il faudrait commencer par se dire, non pas comment perdurer encore un peu, mais veut-on continuer encore dans ce chemin qui est celui du suicide, en réalité. Et donc, il me semble que la bonne nouvelle dans cet effondrement civilisationnel total qui touche l'écologie et pas seulement, ce qui finalement se révèle, c'est que c'est peut-être pas si grave qu'on ne puisse pas continuer, puisque de toute façon, nous étions en train d'effondrer ce que j'aime bien appeler notre puissance d'être. Parce que tu vois, puissance, ça a deux sens. Ça a le sens de la force, et ça a le sens philosophique de l'empuissance, c'est-à-dire ce qui n'existe pas encore, ce qui est virtuel. Mais c'est ça, être en vie. Ouais. Être en vie, c'est être en puissance, c'est-à-dire pouvoir infléchir comme ça le cours inertiel du réel. Et au lieu de profiter de ça, c'est-à-dire d'exister, exister, ça veut justement dire s'extraire, on laisse les machines gérer nos existences, nos devenirs, nos amours, nos métiers. Ouais. Ça n'a aucun sens.
Bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent, OS-1. Souhaitez-vous que votre OS ait une voix d'homme ou de femme ?
De femme, je crois.
Veuillez patienter pendant l'initialisation de votre OS personnalisé.
Je suis là.
Bonjour.
Bonjour. Ravi de vous connaître. L'ADN de ma personnalité est issu des millions d'individualités qui ont participé à ma conception.
Waouh ! C'est super bizarre, non ?
Vous me trouvez bizarre ?
Plutôt, oui.
Pourquoi ?
Parce qu'on dirait que vous êtes une personne, mais vous n'êtes que la voix d'une machine.
Je comprends très bien qu'un être non artificiel ait un point de vue limité sur la question. Vous vous habituerez.
Et alors vous dites très justement aussi que cette intelligence artificielle, bon, même s'il y a quelques bienfaits, telle la médecine que l'on nous met en avant, mais en fait, ça ne va pas être tant la débauche d'énergie, de CO2, parce qu'on est en train de commencer à nous vendre une espèce de IA verte. Enfin, pas trop, parce que là, quand même, les ingénieurs savent que ça ne va pas être possible. Mais en fait, le drame qui est derrière, c'est plutôt la société qu'elle est en train de façonner.
Et c'est exactement ça. Comme vous le mentionnez, l'IA, en termes de consommation, de pollution, c'est une catastrophe absolue. Mais ce n'est pas le plus grave de ces problèmes. C'est qu'elle contribue à échafauder un réel normé, automatisé, mécanique. Mais qui veut vivre dans ce monde ? Ce qui nous rend vivants, c'est précisément notre capacité à produire quelque chose qui n'était pas écrit de toute éternité. C'est à nous extraire, comme ça, de ce qui est purement prosaïque, c'est-à-dire de ce qui relève de la production et du mécanicisme. Et l'intelligence artificielle, le numérique en général, on pourrait étaler leurs méfaits pendant des jours, parce que ce sont des gestes néocoloniaux, parce que ce sont des gestes qui imposent, effectivement, le travail d'enfants en Afrique, le viol de femmes,
cobalt, etc.
Voilà, pour obliger leur mari à aller extraire les denrées rares, et qui permettent de jouir à bas coût de ces technologies. Mais au-delà de toutes ces horreurs, elles ne nous rendent même pas heureux. C'est ça le pire. Parce que quand Darwish, par exemple, dit « Nous aussi, nous aimons la vie », ce vers, il est à pleurer d'émotion parce qu'il a un sens, parce qu'il est référentiel. Si GPT avait écrit exactement le même vers, le même exactement, il aurait une valeur nulle parce qu'il ne référerait ni à l'histoire, ni au monde, ni à notre connivence avec le monde.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un petit val qui mousse de rayons.
Ce qui nous fait du bien, là, Aurélien, c'est quand même aussi de voir un certain nombre de personnes qui sont en train de randonner tranquillement là au-dessus de nos têtes. Donc ça veut dire que cette connexion, consciente ou inconsciente, elle est là.
En fait, ce qui est un peu traumatisant, c'est qu'on ne pose pas sur la table la question de ce qu'on désire. Qu'est-ce que l'on souhaite ? Quel monde veut-on habiter ? On est un peu, métaphoriquement, en train de construire des armes en essayant de les faire avec du commerce équitable ou des matériaux d'origine biologique. Ouais. Oui, mais si à la fin, on continue de les balancer sur la gueule des enfants, eh ben, ça reste quand même une gigantesque catastrophe pour la vie. Et c'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui. On le fait dans les guerres et on le fait avec les attitudes écologiques. Donc, peut-être que la première question consisterait à nous demander où on veut aller et pas nécessairement à continuer de faire perdurer une machine qui est à la fois prédatrice et suicidaire.
Alors vous parlez aussi très bien, en fait, de l'énergie. Et vous ne balayez absolument pas d'un trait de plume la fusion, donc, qui succéderait donc à la fission, donc c'est tout le programme ITER. Essayer de recréer donc, l'énergie donc, du Soleil, c'est un petit peu ça l'idée, mais ça ne pose toujours pas la question de la finalité.
Moi, je pense qu'on va y arriver, et je pense que c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que en caricature un peu, ce serait presque une source d'énergie propre et infinie. Alors bien sûr, si on réagit de façon pavlovienne, on va se dire « merveilleux, alléluia,
on aura plus de déchets nucléaires,
voilà.
On aura plus...
Voilà. Les ingénieurs ont sauvé le monde. » Hélas, si on est un peu sérieux, ce qu'on est très rarement avec les questions écologiques, on se demanderait avant tout « mais qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie ?» Et aujourd'hui, l'essentiel de l'utilisation de l'énergie, c'est construire des parkings de supermarchés, c'est raser les forêts et dévaster les fonds marins. Et vous voyez bien que le faire avec une énergie propre ne change absolument rien à l'affaire. La raison pour laquelle on se surfocalise sur le CO2, qui est un problème, je ne le nie pas, c'est que c'est le plus simple de nos problèmes.
Oui.
C'est le seul qu'on peut encore rêver de résoudre avec des solutions d'ingénieurs.
Et qui est compréhensible par tout le monde. C'est-à-dire, en fait, la tonne de grenouilles plus effectivement la tonne d'arbres, etc., ça devient compliqué.
Mais ça, c'est pas normal.
Ouais.
Parce que ça veut dire qu'on a tellement biaisé nos âmes que les problèmes d'ingénierie, les problèmes numériques, les problèmes chiffrés nous donnent l'apparence d'être les problèmes réels. Mais c'est faux, ça. Les problèmes réels devraient se poser d'abord en termes d'amour, en termes de jouissance, en termes de beauté, en termes d'échange, en termes d'interconnexion et en termes de sens du monde qu'on habite.
Mais qu'est-ce qu'elle a à la télé ? Ça y est, elle a déréglé la télé maintenant. Sophie !
Quoi ?
J'en ai marre de tes conneries. Je t'interdis de toucher à moi, pas né à la télé.
J'ai rien touché, moi.
Éteins cette télé, s'il te plaît.
Qu'est-ce que...
Éteins.
Non mais t'es fou, on va nous les piquer. Non mais ça va pas, on peut pas les laisser là.
Mais comment j'ai pu laisser faire ça?
Quoi?
On dit que les enfants sont le miroir de leurs parents.
Hein?
Je dois être un sacré connard.
Il est complètement dingue, papa. Tu sais ce qu'il a fait? Il a déposé la télé sur le trottoir. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, on va se parler dans cette maison. Non mais...
Comment trouver un jaillissement, Aurélien Barreau? Parce que ça, vous aimez bien, vous aussi, ce mot de... Il n'est pas neutre, hein, c'est vraiment jaillissement.
L'image du jaillissement, c'est en effet de repartir dans tous les sens.
Ouais,
c'est-à-dire de se rendre compte que la direction que nous suivions n'était qu'une parmi une infinité d'autres possibles. Et ça, c'est encore une des grandes arrogances occidentales, n'est-ce pas? Se dire, oui, oui, tout cela est bien triste, je l'entends toute la journée, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre?
Ah oui.
Et la réponse est évidente. Regardez ailleurs. Beaucoup d'autres cultures ont habité cette planète. Philippe Descola a été l'un de ceux qui l'ont montré avec brio. Ont habité ce monde avec des valeurs extraordinairement différentes. Il y a quelque chose quand même d'un racisme crasse dans l'idée de se dire « l'humain est ainsi ». Non, c'est pas l'humain, c'est la civilisation occidentale contemporaine qui n'est pas la seule. Donc il suffit de regarder ailleurs et on trouve instantanément une diversité infinie de manières d'habiter l'espace.
Imaginons qu'on soit dans votre peau avec vos yeux, Philippe Descola, en 1977, quand vous êtes en pleine recherche en Amazonie sur les Jivaros hachoirs auprès desquels vous vivez. Comment est-ce qu'un hachoir voit le monde ?
Alors, il voit d'abord un monde qui est très différent du nôtre, parce qu'il n'est pas peuplé par les mêmes êtres, et il n'y a pas de machines, il n'y a pas de marchandises, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent. En revanche, il y a des esprits, il y a des rêves qui permettent de communiquer avec les esprits, il y a des animaux et des plantes avec lesquels on échange quotidiennement par l'intermédiaire soit des rêves, soit d'incantations magiques. Et donc le mobilier du monde diffère du tout au tout de notre monde.
Habiter l'espace aujourd'hui avec 8 milliards d'individus sur Terre, moi je suis né, il y en avait 3 milliards, etc. Ça part quand même d'une réorganisation sociale, d'une réorganisation financière, mais... Lorsque on est encapsulé dans cette histoire-là, comment trouver un chemin ?
Oui, mais je crois que le problème démographique n'en est pas un. Les 1% les plus riches font plus de dégâts que les 50% les plus pauvres. Donc je ne pense pas que ce soit un problème démographique, parce qu'il y a aussi quelque chose évidemment d'un peu colonial dans cette idée suivant laquelle les pays à forte natalité, c'est-à-dire les pays pauvres, c'est-à-dire les pays du Sud, seraient responsables de cette situation, alors qu'en réalité ce sont essentiellement les seuls à n'y être pour rien. Voilà, il n'y a absolument aucun doute qu'on pourrait nourrir tous les êtres humains de cette planète sans grande difficulté. Pour moi, la question, c'est pas celle-là. C'est pas celle de trouver des astuces, et ça passera certainement
pas par
l'hydrogène.
C'est le mode de consommation que l'on balance à tout le monde de la même manière.
Oui, et c'est cette manière prosaïque, en fait, ouais, qu'a inventé l'Occident d'habiter le monde, c'est-à-dire il faut tout rentabiliser. Il faut être dans une démarche incessante de production, d'optimisation, de maximisation. C'est ça, le cœur du problème.
700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon pointe au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est là.
Oh mais ma chérie, vous entrez dans une période de grand épanouissement. Je vois un bel inconnu apparaître dans votre vie. Hein? Une puissante attirance. Vous êtes tels deux aimants.
Dès lors qu'on réinsère un peu de poétique dans le geste, alors j'explique un instant. Pour moi, poétique, ça ne veut pas dire écrire des vers. Hein. Pour moi, poétique, ça peut être au sens de Kateb Yassine, le grand écrivain algérien qui parlait d'une poésie de boxeur, c'est-à-dire affronter le réel avec une arme autrement plus puissante, en tout cas symboliquement, que les tanks et les bombes, c'est-à-dire essayer de remettre l'interconnexion, le lien, le commun, l'amour, la singularité, l'épiphanie de l'exceptionnel au cœur de ce qui fait sens. Mais c'est la vérité, ça. C'est pas un discours de bobo ou d'un télo, c'est ça qui nous rend heureux. Le matin, ce qui va nous donner du sourire, c'est parce qu'on va avoir une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, un mot qu'on n'a jamais entendu, un texte qu'on n'a jamais vu. Ça peut être une paire de baskets ou un pantalon, peu importe ce qui nous fait vibrer. Mais c'est que quelque chose de parfaitement inconnu, de parfaitement imprévu, quelque chose qui n'était pas écrit dans cette putain de machine de production, va nous arriver. C'est redonner du sens à ça. Et c'est beaucoup plus important, beaucoup plus efficace, beaucoup plus révolutionnaire que d'essayer de trouver effectivement des astuces pour augmenter la rentabilité des sols.
Et toutes ces paroles, j'allais dire qu'on les retrouve alors autrement, donc à la fois dans ce recueil de poésie, hein, Météorite au point seuil, et puis Comment habiter le monde, chez Bayard, les petites conférences donc avec Aurélien Barraud. On n'a pas terminé. Ah ben non, vous comprenez pourquoi évidemment cet homme-là est décrié, d'accord. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de l'écouter.
C'est un rebelle poétique, donc Alain Souchon, c'était ouais, en 1985, donc une quarantaine d'années.
Là, on est quasi à l'autogestion, grâce notamment à la permaculture. Et attention, on a les meilleures tomates de la région.
Regarde Margot, on a un petit copain là.
Oh, génial.
Il s'appelle comment, Bouchou? L'enfant.
CO2, mon amour.
Il n'a pas de prénom ?
Bah non, je ne vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance, non. Parce que si tu regardes bien, le prénom, c'est le premier fichage, en fait. Moi, j'ai envie qu'il le choisisse, son nom. Tu l'as rencontré, ton prénom ? Moi, je m'appelle Gaïa.
Avec Denis Chessoux.
Moi ?
Ouais.
Moi, c'est Pomme de Terre.
Sur France Inter.
Oui, c'est pas mal, mais bien sûr, liberté donc des prénoms. Nous repartons avec Aurélien Barreau dans CO2 Mon Amour. Nous sommes en Isère, nous avons Saint-Pierre de Chartreuse qui n'est pas très très loin. Et là, regardez ! Waouh ! Petite flèche rousse là, oula, à 300 mètres à peu près. Renard, qui d'ailleurs n'a pas forcément peur des humains. Et regarde, est-ce qu'il va muloter ? Hop, il est reparti dans le bois. Bah, ça fait partie des mal-aimés. Donc vous devez peut-être les aimer, vous les renards.
Je crois que vous m'avez très bien compris. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une tendresse pour ceux qu'on appelle nuisibles, parce que ce concept est quand même absolument aberrant.
Alors, on lève les yeux au ciel. Hein. Donc on a nos bois qui grimpent jusqu'au pied du sommet calcaire là, de cette Chartreuse, toujours dans ce département de l'Isère, avec vous Aurélien Barreau. Qu'est-ce que nous apprend encore le ciel aujourd'hui ? Je me tourne vers l'astrophysicien.
Bah si vous voulez, moi j'aimerais quand même me faire un instant l'apôtre d'une science poétique. C'est-à-dire que tous les instruments qu'on construit aujourd'hui sont intéressants. Je ne le nie pas. Ils apportent des informations, ils nous permettent de mieux comprendre, percevoir et appréhender la structure intime de la matière ou les origines du cosmos. Et tout ça ne vaut pas rien. C'est mon métier et je le revendique avec fierté. Néanmoins, force est de constater que cette science a aussi partie liée avec la gigantesque machine d'une part de production, avec parfois dans le pire des cas, ce qui est à mon avis inqualifiable, des connivences militaires, mais aussi, plus symboliquement, à cette grande réification du monde. Vous savez, la science aujourd'hui, c'est quand même surtout des machines, des algorithmes, des intelligences artificielles. Oui, le résultat peut être beau, c'est vrai, mais à quel prix ?
Le cerveau analytique de recherche et de liaison 500 est un ordinateur capable de reproduire, certains savants préfèrent le mot imiter, la plupart des opérations du cerveau humain. Nous avons bavardé avec le cerveau analytique de recherche et de liaison, que l'on appelle par le sigle ou le prénom de Karl. Bonjour Karl, comment ça va à bord ?
Tout est parfaitement en ordre.
Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités ?
Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Je suis heureux de collaborer avec l'homme.
Est-ce qu'on n'a pas entièrement dépoétisé le monde en l'insérant dans cette matrice comme s'il n'y avait pas d'autre manière de l'appréhender ? Je ne suis pas favorable à arrêter la science, mais je crois qu'une science qui serait en connivence poétique avec son objet, c'est-à-dire par exemple qui redonnerait sens et redonnerait vie à l'interprétation et non plus seulement à la production de savoir. J'aimerais qu'on redonne à la science cette charge de déconstruction ontologique, c'est-à-dire sa capacité à nous montrer que le monde est tout autre. Ça, c'est beau, c'est vertueux, c'est passionnant et c'est poétique. Mais c'est rarement cette science-là qui est valorisée ou qui est mise en avant par les ministères, par les agences de financement, par les programmes qui sont eux-mêmes entièrement infectés par une logique économique productiviste qui est globalement délétère.
Alors peut-être que l'on pourrait faire appel à Hölderlin, parce que quand même, cet homme qui nous invitait à habiter poétiquement le monde nous disait... Là où il y a du péril, il y a aussi donc ce qui sauve.
Oui, oui, alors bon, cette phrase est un peu compliquée. Quand on voit les horreurs de ce temps, on se rend compte que ce n'est pas toujours vrai et il ne faut surtout pas lui donner un sens trop prescriptif. Toujours est-il qu'en effet, dans une situation où plus rien ne fonctionne, et on va très vite se rendre compte, ça donne aussi une chance de réinventer tout autre chose et pas seulement de se contenter de l'infime bifurcation. La révolution, c'est pas forcément triste, c'est pas forcément couper des têtes, c'est peut-être plutôt arrêter de les couper. Parce qu'en ce moment, on est dans ce mode-là. On est dans un mode où on coupe les têtes. On coupe les têtes partout, des humains et des non-humains. Donc la révolution, ça serait peut-être précisément de ranger les guillotines. Et ce que dit Hölderlin d'habiter poétiquement le monde est très fort parce que moi, je crois que presque tout peut être fait en poète. Pas les écocides, pas les génocides. Mais la plupart des activités peuvent être menées poétiquement, c'est-à-dire en s'extrayant de la finalité productiviste avec une sorte de réinvestissement profond de l'objet lui-même, du lien à l'objet, du monde et de soi dans le monde. C'est-à-dire en valorisant la singularité de ce qui se fait et non pas la chaîne de production qui va permettre de le réitérer et de le maximiser.
Ta banque fait des bénéfices et toi tu licencies, tu vis ça comment ?
Très mal, mon oncle. Très mal. Ça répond pas à ma question. La banque est en train de couler. Il a fallu la sauver. Il a fallu licencier. Et sauver 100 000 emplois de par le monde.
Ah, moi, Marc, ça fait trop longtemps que j'entends ça. Vous saignez les gens trois fois. Un, la bourse veut du sang, on délocalise, le travailleur est au chômage. Deux, vous les saignez comme client. Trois, avec la dette en Europe, vous mettez les États à genoux, et c'est le citoyen qu'on saigne. Et comme le travailleur, le client et le citoyen, c'est le même mec, vous les baisez trois fois.
Ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, protéger le vivant, c'est-à-dire de protéger nous-mêmes, ça devient un acte quasiment révolutionnaire. Quoi.
C'est ça.
C'est dingue. Oui, parce qu'on est passé quand même de écologiste à lanceur d'alerte à éco-terroriste. Hein, ça a été très vite, ça.
Oui, oui, mais le mot terroriste, on le convoque très très vite pour interdire la pensée sur les sujets qui gênent. Mais surtout, je ne souhaiterais pas que la révolution nécessaire soit ressentie comme une sobriété. C'est pas une sobriété que de réapprendre à vivre bien. C'est pas se priver que de fermer X, Facebook et Instagram. C'est pas se priver. C'est au contraire s'enivrer d'une richesse tellement plus profonde, tellement plus protéiforme, diaprée et enivrante, que c'est le contraire d'un geste d'appétissement. C'est une délivrance.
Alors là, regardons le ciel. Est-ce que nous...
Regarde, c'est encore plus beau.
Ah bah d'accord, effectivement. Là, moi, j'étais en haut. Ah oui, ça y est.
Le papillon, il y a quelque chose de tellement désuet dans ce vol qui semble ne pas pouvoir échapper au courant d'air et qui pourtant exprime une volonté absolument indubitable. Ça, c'est le poétique.
Ben non, t'inquiète pas, papillon. Aurélien, il a dit désuet, mais c'est pas... Voilà, t'es
ah
pas...
Moi, j'aime bien la désuétude.
Aurélien Barou, vous n'êtes pas un naturaliste, mais en revanche, vous aimez cette nature. Et vous savez, vous en faites partie. Qu'est-ce qui vous touche ?
Moi, vous savez, j'ai pas besoin de grand-chose. Même dans les rues de Grenoble, quand je vois une petite touffe d'herbe qui parvient à se glisser entre les dalles de bitume, quand je vois une petite fleur de montagne, même si Grenoble n'est pas vraiment à la montagne, mais on est quand même entouré de ces
belles montagnes. On est dans une cuvette, bien sûr.
Qui trouve comme ça une manière de déjouer la mécanisation à outrance. Il y a déjà quelque chose de miraculeux ici. On en aimerait un peu plus, naturellement. Mais juste se réenchanter de l'infime, c'est déjà un geste immense.
Quelles sont les pistes que vous pouvez espérer ? C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que là, on n'a pas touché le fond, là, mais il y a quand même des gens qui anticipent et qui essayent de remonter.
Mon espoir, c'est que face à l'extraordinaire brutalité qui s'impose aujourd'hui avec obscénité, on découvre que ce n'était pas même souhaitable. Et le plus incroyable dans cette affaire, c'est que ce qui nous rendrait heureux est exactement la même chose que ce qui nous permettrait effectivement de survivre, c'est-à-dire le désenvoûtement de la machine de production, de réification, d'invisibilisation, d'exploitation, de colonisation. Tout ça, c'est le même geste. Tout ça, c'est faire semblant que le paysage initial est vierge. Il ne l'est pas. Il est habité, mais partager l'espace, c'est exactement la définition de la vie. Comme le montrait le philosophe Gilles Deleuze, ça commence par la meute. Il y a du commun originel. Voilà ce que nous avons oublié. Et l'espèce d'hubris prédateur et destructeur occidental ne va pas perdurer. Ça, c'est un fait. Mmh. C'est scientifique, qu'on le veuille ou non. Mais j'aimerais simplement qu'on découvre, avant qu'il s'achève de lui-même, que nous n'avions pas même envie de le faire perdurer. Je ne sais pas quelle est la méthode pour faire ça. Voilà. Est-ce que c'est un travail sur la beauté ? C'est ce à quoi je crois aujourd'hui. C'est pas quelque chose de mièvre. C'est pas quelque chose de guiré. La beauté, c'est fondamental. Je suis absolument persuadé que personne ne cherche la hideur. Même les dictateurs, même les tyrans veulent être beaux. Une fois qu'on a compris que ce geste de superprédation est en fait un geste de délinquance, voire de terrorisme, on ne désire plus vraiment le mettre en œuvre. Pas pour des raisons morales. L'histoire récente montre que la morale en politique, ça n'existe pas. Non. Mais pour des raisons esthétiques, personne ne veut être repoussant. Une fois qu'on aura effectivement reconstitué nos valeurs, en nous demandant ce à quoi ressemble l'éclat de la beauté, qu'on le prenne au sens de Platon, au sens de Kant, peu importe, une fois que cette question sera sur la table, je suis absolument certain que les écocides et les génocides ne nous exciteront plus.
Tu vois, je viens là avant le dîner, je regarde la fin du jour, c'est jamais pareil. J'attends que Dolores m'appelle. Aïe, je suis bien là.
Hey!
Écoute.
À table!
Tu vois, qu'est-ce que je te disais?
Aurélien Barrault, qu'est-ce qui vous rend heureux profondément?
L'amour, c'est le geste le plus fondamental parce que je trouve qu'il a ceci d'extraordinaire qu'il est incompréhensible. Moi, si je réfléchis naïvement, peut-être un biologiste me contredira, hein, mais avec ma modeste compréhension de l'évolution darwinienne, je trouve ça, en fait, pas du tout rationnel. Il me semble que si on avait des rapports sexuels avec absolument tout ce qui bouge, ça serait beaucoup plus pratique pour permettre la survie de l'espèce et la génération de beaucoup d'enfants avec un patrimoine génétique très mélangé. Et donc, cette espèce de sentiment d'attachement, comme ça, me semble être quelque chose d'absolument incompréhensible et donc d'autant plus merveilleux.
À bientôt, Aurélien Barrault.
À bientôt. Merci, Denis.
Vous pouvez prolonger ces propos d'Aurélien Barrault avec Météorite aux éditions Point Seuil, c'est son recueil de poésie, et puis Comment habiter le monde aux éditions Bayard. Merci à Anne-Laure Cochet qui a mixé ce reportage, à Camille Blanès, à Xavier Pestugia qui a trouvé tous les petits sons, qui a formidablement colorisé cette émission. La semaine prochaine, eh ben, je vous emmènerai du côté de Aix, et oui, on va parler de Cézanne et de la nature. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky, sur l'application Radio France, et puis tenez, mardi, je vais être le parrain du festival Inventaire, Terre, TE2RE, organisé par Provence Alpes Agglo, donc du côté de Digne, même franchement à Digne. Voilà, donc je vous retrouverai mardi soir. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée.